Chapitre 41. Callan embrassait Richard, le serrant très fort dans ses bras. L'esprit plein de joie et de paix, elle sursauta quand des cris retentirent. Richard disparut, lui laissant le cœur et les bras vides. Elle s'assit, repoussa la couverture, paniquée, et se demanda où elle était, puis elle se souvint et faillit vomir. Un bain chaud. Depuis combien de temps n'en avait-elle pas pris? Son pouvoir contre un bain chaud. Elle se frottait les yeux au moment où le capitaine Ryan passa la tête à l'intérieur de la tente. « Combien de temps ai-je dormi ?»«
Très exactement 2 heures. Quelqu'un vous attend dehors. »
Devant la tente, l'inquisitrice vit un groupe d'hommes. Mosley était au milieu, bâillonné et ligoté. Près de lui, le lieutenant Hobson tirait une mine d'enterrement. Callan foudroya Ryan du regard.
« Mère inquisitrice, lâcha-t-il, j'ai pensé que vous aimeriez l'exécuter vous-même puisqu'il vous a manqué de respect. »
Il tendit son couteau à Callan. Elle ne le prit pas, mais s'adressa aux 2 hommes qui soutenaient le prisonnier.
« Lâchez-le et écartez-vous. »
La jeune femme aurait juré qu'elle rêvait, toujours couchée sous la tente. Mais ce n'était pas le cas, et elle n'avait aucun choix. Quand les 2 hommes lâchèrent Mosley, il tenta de s'enfuir, mais l'inquisitrice le prit par le bras. Encore endormie, elle n'hésita pourtant pas un instant. Cet homme allait lui appartenir. À la guerre, on ne fait pas de détails. L'air vibra. Un coup de tonnerre silencieux. Une fraction de seconde, et William Mosley venait de tout perdre. Il se jeta à genoux devant Callan, les yeux ronds de panique. À cause du bâillon, il ne pouvait pas supplier sa maîtresse de lui donner un ordre. Le voyant terrifié à l'idée de lui déplaire, Callan défit le morceau de tissu noué sur sa bouche.
« Maîtresse, gémit-il, ordonne-moi ce que tu veux, mon seul désir est de te plaire. »
Sous des centaines de regards stupéfaits, Callan adopta son masque d'inquisitrice et regarda Mosley.
« Je serais très contente, William, si tu me disais ce que tu avais prévu de faire après avoir quitté le camp. »
L'homme rayonna de joie, des larmes ruisselant sur ses joues. N'étaient ses poignets entravés, il se serait accroché aux jambes de l'inquisitrice pour la remercier de sa question.
« Maîtresse, permets-moi de te le dire. » « Je t'écoute, William. Je voulais aller dans le camp de l'ordre impérial et me joindre à cette armée. Tous mes hommes m'auraient suivi, tu sais. »
Il sourit comme un enfant stupide.
« Après, j'aurais parlé à mes nouveaux chefs des forces du capitaine Ryan et de vos plans d'attaque. Ça m'aurait sûrement valu des galons de sous-officier, tu ne crois pas ? Maîtresse, je pensais que l'ordre impérial avait de meilleures chances de l'emporter. Comme j'ai toujours cherché à être du côté du plus fort, je... »
Il éclata en sanglots.
« Maîtresse, j'ai tellement honte d'avoir voulu qu'il t'arrive malheur. Je souhaitais qu'il te tue. » « Maintenant, je voudrais que tu me pardonnes. Oh oui, c'est mon plus cher désir. Dis-moi ce que je dois faire, je t'en supplie. »«
Je désire que tu meures, » souffla Callan, « devant moi, à la minute même. » William Mosley s'écroula aux pieds de sa maîtresse. Après quelques convulsions terribles, il rendit son dernier soupir. Callan regarda Ryan, qui avait les yeux écartés, puis Prindine, debout près du lieutenant Hobson, totalement décomposé. Chandalen aussi dévisageait son chasseur.
« Prindine, tu devais t'assurer qu'il n'y aurait pas de survivants. Pourquoi m'as-tu désobéi ?»
Comme l'inquisitrice, l'homme d'Adobe parla dans sa langue.
« Et ils étaient décidés à ramener cet homme. » Le capitaine le leur avait ordonné, mais je l'ignorais en partant, sinon je te l'aurais dit. Il y avait 200 fantassins et 100 cavaliers. Je n'aurais pas pu faire grand-chose, à part tuer l'homme moi-même. Quand j'ai compris que ça m'aurait coûté la vie, j'ai renoncé, parce que ça m'aurait empêché de continuer à te protéger. En plus, je savais que tu avais raison, et une bonne leçon ne pouvait pas nuire à ces blancs-becs.
Un des hommes de Mosley s'est-il échappé?
Non. L'efficacité de nos soldats m'a étonné. Ils ont bien agi. Ils pleuraient en tuant les autres, mais ils n'ont pas fait de quartier.
« Je vois, » souffla Callan. « Prindine, tu as pris la bonne décision. » Elle jeta un coup d'œil à Chandalen.
« Et ton chef sera content aussi ?» Ce n'était pas un pronostic, mais un ordre.
Prindin eut un petit sourire soulagé.
« Vous êtes satisfait, capitaine ?»
demanda Kalan à Ryan.
« Oui, mère inquisitrice, »
murmura l'officier.
La jeune femme se tourna vers les autres hommes. « Et vous ?»«
Oui, mère inquisitrice, »
répondirent-ils en chœur. Si quelques-uns de ces garçons n'avaient pas peur d'elle avant cet instant, ils venaient de changer d'idée. Un craquement de brindilles aurait-on juré, et ils auraient détalé plus effrayés que des lapins. C'était la première fois qu'ils voyaient la magie à l'œuvre, et ça n'avait rien eu de ragoûtant.
« Mère inquisitrice ?»
demanda timidement Ryan, serrant toujours le couteau qu'il avait tendu à Kalan.
« Qu'allez-vous me faire pour avoir désobéi à vos ordres ?»«
Rien. C'est votre première journée d'homme engagé dans le combat contre l'ordre impérial. La plupart d'entre vous doutent de la valeur de mes ordres. Vous allez recevoir votre baptême de la guerre et vous n'avez pas fini d'apprendre. Retenez cette leçon. Nous en resterons là. »«
Merci, mère inquisitrice. »
La main tremblante, Ryan rengaina son couteau.
« Vous savez... « J'ai grandi avec lui. »
Il désigna le cadavre de Mosley.
« Nous vivions à une demi-lieue l'un de l'autre sur la même route. On allait tout le temps pêcher et chasser ensemble, et pour les corvées, on se donnait un coup de main. Les jours de fête, on mettait nos beaux manteaux de la même couleur et... »«
Je suis navré, Bradley. Rien n'apaise la douleur du deuil ou de la trahison, à part le temps. La guerre est horrible, je vous l'ai déjà dit. » « Sans les bouchers de l'ordre impérial, peut-être seriez-vous allé pêcher aujourd'hui avec votre ami. Accusez vos ennemis et vengez Mosley en même temps que les autres. »
Ryan hocha lentement la tête.
« Mère inquisitrice, qu'auriez-vous fait si Mosley avait dit qu'il ne comptait pas rallier nos ennemis ?»«
J'aurais pris le couteau que vous me tendiez, je vous l'aurais enfoncé dans le corps. »
Sur ces mots, Kalan se détourna et posa une main sur l'épaule du lieutenant Hobson.
« Lieutenant, je sais que votre mission était difficile. Prindin m'a dit que vous l'avez accomplie courageusement et efficacement. »
L'officier, au bord des larmes, parvint pourtant à bomber le torse de fierté. Kalan remarqua qu'il n'avait pas encore de poils au menton.
« Merci, mère inquisitrice. »
Kalan balaya soudain du regard les centaines de curieux massés autour d'eux.
« Vous n'avez rien à faire, soldat ?»
Hobson salua l'inquisitrice et tourna les talons. Les hommes qui l'avaient ramené prirent le cadavre de Mosley et l'emportèrent. D'autres allèrent demander des instructions à Chandalen et aux deux frères. Ryan resta près de Kalan, observant le camp en train de revenir à la normale. L'inquisitrice était au bord de la syncope. Utiliser son pouvoir quand elle était en pleine forme la vidait déjà de ses forces, alors dans son état actuel... Par quel miracle tenait-elle encore debout? Son raid dans le camp ennemi, deux ridicules heures de sommeil et un réveil pareil. Dire qu'elle avait épuisé le peu d'énergie qui lui restait pour une affaire dont elle n'aurait pas dû normalement se mêler.
Était-ce le froid, les difficultés du voyage?
En tout cas, elle se sentait plus fatiguée que d'habitude ces derniers jours. Une bonne tasse de thé, voilà qui la requinquerait.
Elle allait demander à Prindin... « Puis-je vous parler un moment, mère inquisitrice ?»
souffla Ryan.
« Eh bien, oui, qu'y a-t-il ? » ?»«
Je suis désolé, mère inquisitrice. J'ai eu tort. »
« Oublions ça, Bradley. Mosley était votre ami. On a toujours du mal à penser qu'ils peuvent nous trahir, je vous comprends très bien. »«
Il ne s'agit pas exactement de ça. Mon père disait toujours qu'un homme doit admettre ses erreurs, sinon il ne devient jamais meilleur. »
Il osa enfin regarder Kalan dans les yeux.
« Ma véritable erreur, c'est d'avoir cru que vous vouliez la peau de William parce qu'il refusait de vous suivre. Mais le dépit n'avait rien à voir là-dedans. Vous tentiez de nous protéger, même en sachant que nous vous haïrions. Eh bien, je ne vous déteste pas, et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Vous accompagner au combat sera un honneur, et je souhaite un jour avoir la moitié de votre sagesse et de votre courage.
Je suis à peine plus vieille que vous, soupira Kalan, et votre tirade me donne l'impression d'être une ancêtre. Je suis soulagé que vous m'ayez comprise.
une petite joie au milieu de tant de chagrin. Bradley, vous êtes un bon officier et vous deviendrez meilleur chaque jour.
Je suis content que nous soyons de nouveau en bons termes.
À cet instant, un homme approcha timidement. Ryan lui fit signe d'avancer.
« Qu'y a-t-il, sergent Frost ?»
L'homme salua avant de parler.
« Dans une ferme abandonnée, des hommes ont trouvé de quoi faire du blanc de chaux. Nous avons aussi des cuves pour le mélange, assez grosses pour qu'on se baigne dedans. »«
Combien de cuves, sergent ?» demanda Callan.
« 10, mère inquisitrice. »«
Placez-les côte à côte et montez une tente au-dessus de chacune. » Ne lésinez pas sur la taille, même si vous devez utiliser les pavillons de commandement. Fabriquez le blanc de chaux avec de l'eau bouillante et mettez les pierres chaudes sous les tentes. Enfin, prévenez-moi quand vous aurez fini. »
Ravalant ses questions, le sergent partit au pas de course.
« Pourquoi voulez-vous du blanc de chaux ?»
s'étonna Ryan.
« Nous venons de nous réconcilier, lieutenant. Ne gâchons pas ça trop vite. Je vous le dirai quand les préparatifs seront terminés. Les chariots sont prêts ?
Je suppose. »
« Alors je vais aller les voir. Avez-vous placé des sentinelles et des guetteurs ?»«
Dès que vous l'avez ordonné. »
Alors qu'elle traversait le camp, des hommes vinrent sans cesse proposer des idées de sabotage à l'inquisitrice. Beaucoup étaient excellentes. Détruire les roues des chariots, brûler les étendards pour compliquer les ralliements, jeter du fumier dans les tonneaux d'eau, d'autres allaient de l'irréalisable à l'absurde. Callan écouta tout avec attention, fit des commentaires et, dans un petit pourcentage de cas, donna son aval. Soudain, le lieutenant Hobson apparut avec une gamelle en fer blanc, la dernière chose dont elle avait besoin.
« Mère inquisitrice, je vous ai gardé du ragoût au chaud. »
Heureux comme un gosse, il lui tendit la gamelle.
Voyant qu'il la suivait comme un toutou, Callan fit mine de déborder de reconnaissance. Elle se força même à goûter du bout des lèvres et à s'extasier sur la qualité du rata.
Après avoir utilisé son pouvoir pendant sa période de récupération, une inquisitrice était incapable de manger. Seul le repos lui faisait du bien, mais, avec le programme en cours, c'était hors de question. Ayant atteint les chariots, Callan envoya Hobson chercher Shandalen et les deux frères. Dès qu'il fut parti, elle se débarrassa de la gamelle et monta dans le chariot plein de tonneaux de bière. En les comptant, elle fit signe à Ryan de la rejoindre.
« Dites à quelques hommes de décharger la rangée du haut. Faites-leur redresser les tonneaux du bas et retirer les couvercles. »
« Shandalen, vous a-t-il fabriqué des trogas ?»
Cette arme était d'une grande simplicité. Un morceau de cordelette ou de fil de fer, équipé de poignées aux deux extrémités. Quand la longueur était bien calculée, il suffisait de croiser les poignées afin de former une boucle parfaite pour passer sur la tête d'un homme et se refermer autour de son cou. Un troga en fil de fer, manié par un homme assez fort, décapitait proprement une sentinelle avant qu'elle ait poussé un cri. Avec la cordelette, la mort était plus lente, mais la victime ne donnait pas l'alarme non plus. Ryan tira de sous son manteau un troga en fil de fer.
Shandalen nous a fait une petite démonstration. Sans forcer, heureusement. Pourtant, je me félicite de n'avoir pas été le cobaye. Les deux frères et lui se chargeront d'éliminer les sentinelles et les guetteurs. À mon avis, il doute que nous soyons assez furtifs pour cette mission. Il a tort, car beaucoup de mes hommes sont des chasseurs et...
Le capitaine couina comiquement et sursauta. Shandalen venait de lui enfoncer un index dans les côtes et il ne l'avait pas entendu approcher.
Vexé, l'officier se massa le flanc et foudroya l'homme d'Adobe du regard.
Prindin et Tosidin prêtèrent main forte aux soldats qui déchargeaient les tonneaux.
« Tu as besoin de quelque chose, mère inquisitrice ?»
demanda Shandalen.
« Donnez-moi votre réserve de poison pour les flèches 10 pas. »
Étonné, le chasseur obéit en silence. Il sortit sa petite boîte en os et les deux frères l'imitèrent.
« Combien de tonneaux puis-je empoisonner avec ça ?»«
Tu veux verser le baume doux dans cette boisson ?»
Callan hocha la tête.
« Nous en avons besoin pour... »«
Je vous en laisserai un peu, mais chaque soldat qui crèvera comme ça sera un adversaire de moins. »«
Et s'ils découvrent que c'est du poison ?»
objecta Ryan.
« Ils ne boiront pas et nous n'aurons même pas l'avantage qu'ils soient sous. »
« Ils ont des chiens, »
dit Callan.
« C'est pour ça que nous sacrifions aussi de la nourriture. Ils la feront goûter aux animaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Ces soudards ont tellement envie d'alcool qu'ils ne se méfieront pas de la bière après avoir pris cette précaution. En tout cas, je suis prête à le parier. »«
J'ai compté les tonneaux, »
annonça Shandalen.
« 36. 12 par stock de bandeau. Mais ça ne les tuera pas, sauf s'ils boivent vraiment beaucoup. Cela dit, ils seront malades.
Quel genre de maladie?
Des nausées, la tête qui tourne, une sensation de faiblesse. Certains mourront peut-être au bout de quelques jours.
Ce sera très utile pour nous.
Il n'y aura pas assez de bière pour tous ces types,
dit Ryan.
Une petite partie seulement en boira. Le butin reviendra d'abord à l'unité qu'il aura découvert.
Les officiers prendront presque tout le reste et les soldats seront servis en dernier, comme d'habitude.
Ça me va tout à fait puisque les officiers sont ma cible prioritaire.
Callan baissa les yeux sur les tonneaux.
Pourquoi y en a-t-il 6 plus petits?
C'est du rhum, répondit Ryan.
La boisson des princes? Les officiers se jetteront dessus.
Chandalen, sentiront-ils le goût?
Surtout si on met une dose plus forte dans le rhum.
L'homme d'Adobe trempa un doigt dans le liquide ambré et goûta.
Non, c'est assez amer. Cette saveur dissimule celle du bando.
De la pointe de son couteau, Callan divisa en 6 la réserve de Chandalen, puis elle la répartit dans les petits tonneaux.
Avec ça, ceux qui boiront leur rhum mourront demain matin ou au plus tard dans la journée.
Mais tu ne pourras pas empoisonner toute la bière.
Callan rendit à son ami la boîte où il restait encore des traces de poison dans les coins.
Elle descendit du chariot.
Nous laisserons intacts 6 tonneaux de bière.
Si le rhum est mortel, nous y gagnerons au change.
Elle recommença l'opération avec la boîte de tocidine.
Et voilà 12 barriques de bière mortelle. Il faudra déplacer tout ça pour que les officiers voient le rhum tout de suite.
Elle approcha des derniers tonneaux et ouvrit la boîte de Prindine.
Elle est presque vide,
s'exclama-t-elle.
Qu'as-tu fichu de ta réserve?
Prindine fit un vague geste, l'air de souhaiter qu'elle n'ait pas posé cette question.
Quand nous sommes partis, je n'avais pas l'esprit très clair. Dans l'urgence, j'ai oublié de vérifier ma boîte.
Furieux, Chandalen toisa Prindine du haut du chariot. Combien de fois t'ai-je dit que tu oublierais d'emporter tes pieds si tu pouvais marcher sans eux?
Aucune importance, dit Callan.
Prindine parut soulagée qu'elle change de sujet.
Nos ennemis seront malades, c'est tout ce qui compte.
Pendant qu'elle s'occupait des derniers tonneaux, elle entendit des voix l'appeler au loin. Quand elle eut fini, elle leva les yeux et vit approcher deux hommes montés sur d'énormes chevaux d'attelage. C'était eux qui criaient son nom.
Les chevaux étaient équipés de leurs harnais et de leurs colliers.
Une chaîne pliée plusieurs fois pendait à l'anneau de leur collier. Quand les animaux s'arrêtèrent devant Callan, les cavaliers déplièrent la chaîne et la laissèrent tomber sur le sol. L'inquisitrice aperçut alors que les deux bêtes étaient reliées latéralement par cette chaîne. De sa vie, elle n'avait jamais vu une chose pareille. Les deux hommes mirent pied à terre.
« Homme » semblait un bien grand mot, car ils avaient tout au plus 15 ans. Dégingandés, les cheveux bruns frisés coupés courts, ils affichaient un sourire béat qui leur donnait l'air franchement stupide.
« Mère inquisitrice, nous te saluons »
dirent-ils en cœur. Ils s'arrêtèrent à une distance prudente de Callan. À l'évidence, elle leur faisait peur, mais ça ne douchait pas leur enthousiasme.
« Comment vous nommez-vous, soldat ?»«
Je suis Bryn Jackson, et voilà Peter Chapman, mère inquisitrice. Nous avons eu une idée et nous voulons vous l'exposer.
Oh, nous sommes sûrs que ça marchera. Ça, on en mettrait nos mains à couper. »«
Et qu'est-ce qui marchera, si je puis me permettre ?»
demanda Callan.
Rayonnant, Bryn souleva la chaîne qui gisait dans la neige.
« Ça, mère inquisitrice ! Et nous y avons pensé tout seuls, Peter et moi !»
Il lâcha la chaîne.
« Montre-lui, vieux frère !»
Aussi souriant que son copain, Peter fit faire quelques pas de côté à son cheval jusqu'à ce que la chaîne se soulève du sol.
« Selon vos ordres, »
dit Bryn,
« nous allons abandonner les chariots. Mais Daisy et Pip, nos chevaux, il n'est pas question de les laisser en arrière. Vous savez, nous sommes des cochers. Histoire que Daisy et Pip soient utiles, nous avons pris plusieurs grosses chaînes d'attelage et demandé à Morvan, le forgeron, d'en souder deux ensemble. »
Il hocha benoîtement la tête comme si son explication était limpide.
« Mais encore ?»
s'impatienta Callan.
« On doit blesser leurs chevaux, paraît-il. C'est à ça que sert notre système. Comme nous attaquerons de nuit, ils seront attachés à des piquets, les uns à côté des autres. Nous galoperons le long de la ligne, chacun d'un côté.
La chaîne brisera par en dessous les pattes des chevaux. On les éliminera tous en un seul passage. »
Callan croisa les bras et regarda Peter aussi enthousiaste que son ami.
Brin, galoper de nuit relié par une chaîne me semble très dangereux.
C'est un risque à courir, mère inquisitrice. Et si nous réussissons, nos ennemis n'auront plus de chevaux.
Soldats, ils en ont environ 2000.
Peter se rembrunit un peu et Brin perdit son beau sourire.
2000 ?
Répéta-t-il accablé. Callan consulta du regard le capitaine Ryan qui haussa les épaules, incapable de dire si l'idée marcherait ou pas. Les autres hommes se grattaient le menton tout aussi dubitatifs.
« Ça ne fonctionnera pas, » dit Callan.
Brin se décomposa.
« À deux, vous ne réussirez pas. Il faudra équiper d'autres chevaux avec votre système. »
Les deux jeunes soldats relevèrent la tête.
« Puisque vous l'avez inventé, je vous charge de diriger les cochers et leurs bêtes. Ce sera pour eux le meilleur moyen de se rendre utile. » Réquisitionnez tout le matériel nécessaire sur les chariots, puisque nous les laisserons ici de toute façon. Dès que le forgeron aura fabriqué les chaînes, entraînez-vous toute la journée. Augmentez la difficulté régulièrement pour être au point quand nous attaquerons.
Vous verrez, mère inquisitrice,
s'écria Peter.
Nous réussirons. Vous pouvez compter sur nous.
Votre idée est risquée,
rappela Callan.
Mais si elle marche, nous aurons un grand avantage, car leur cavalerie est redoutable. Ne prenez pas cette affaire à la légère. Dans le camp ennemi, des soldats tenteront de vous tuer pendant que vous agirez.
Le menton bien droit, les deux garçons se frappèrent la poitrine du poing.
Mère inquisitrice, vous pouvez vous fier au cocher. Nous ne vous décevrons pas.
Callan les ayant salués de la tête, ils remontèrent sur Daisy et Pip et partirent. Au loin, un cavalier solitaire traversait le camp au galop. Il freina des quatre fers pour s'arrêter près d'un groupe d'hommes et leur poser une question. Un grand type lui désigna Callan.
Brin et Peter sont avec nous depuis 2 mois,
dit Ryan.
Ce sont des gamins.
Non, capitaine. Depuis aujourd'hui, ces hommes se battent pour les contrées du milieu. Lors de notre rencontre, je vous ai également pris pour un gosse. À présent, vous me semblez un peu plus mûr.
Comme d'habitude, vous avez raison. S'ils réussissent, ce sera un sacré exploit.
Le cavalier approchait. Il sauta de selle avant que son cheval soit complètement arrêté.
« Mère inquisitrice, »
dit-il en exécutant un salut impeccable,
« je me nomme Cynric et je fais partie des sentinelles.
Que se passe-t-il, Cynric ?
Nous avons repéré un coche sur la route qui croise le col de Jarrah. Il venait de Kelton et nous avons jugé prudent de l'intercepter. À présent, je viens vous demander des instructions.
Qui sont les passagers ?
Un vieux couple de riches marchands. Je crois qu'ils travaillent dans les fruits.
Vous ne leur avez pas parlé de notre armée, j'espère ?
Bien sûr que non, mère inquisitrice. Nous nous sommes fait passer pour une patrouille à la poursuite de bandits de grand chemin. J'ai dit qu'ils devaient attendre que j'aie consulté notre commandant.
Une excellente improvisation, Cynric.
Le cocher s'appelle Ahern. Il a tenté de continuer son chemin et nous avons dû sortir nos épées. Alors le vieux type a sorti la tête par la portière en braillant que nous voulions le détrousser. Il nous a menacés avec sa canne, comme s'il pouvait nous faire disparaître. Quelques flèches bien placées autour de lui l'ont persuadé de ne plus se montrer.
Et lui, comment s'appelle-t-il ?
Robin... Ruben... Ruben Ribnik. Un vieux bonhomme sacrément agressif.
Probablement des espions,
soupira Callan.
Mais si l'ordre impérial les capture, ils parleront à la première gifle. Que fiche-t-il dans le coin ?
Le vieux a dit que sa femme est malade. Il l'a conduit à Nicobarès voir les guérisseuses. Pour tout vous dire, elle m'a eu l'air dans un sale état.
S'ils vont à Nicobarès, leur route les éloignera du camp de l'ordre impérial. Mais avant de les laisser partir, j'aimerais leur parler.
« Mère inquisitrice !»
cria le sergent Frost en courant vers eux.
« Les cuves de blanc de chaux et les temps de chauffer sont prêtes, selon vos ordres !»
Callan regarda le sergent, puis Cynric.
« Soldat !»
soupira-t-elle, agacée.
« Je n'ai pas le temps de faire l'aller-retour. Désolé, il y a trop de travail ici. »«
Je comprends, mère inquisitrice. Que faisons-nous des voyageurs ?»«
Tuez-les !»
ordonna Callan, sans montrer que cette décision lui déchirait les entrailles.
« Pardon, mère inquisitrice ?
Tuez-les !
Nous ne sommes pas sûrs de leur identité et nous ne pouvons pas prendre de risques. Frappez proprement pour qu'ils ne souffrent pas. »
Callan se tourna vers le sergent Frost.
« Mère inquisitrice ! »
souffla Cynric. Elle lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Le cocher Ahern, il a un laissez-passer royal. »«
Un quoi ? »
« Un médaillon que lui a donné la reine Cyrilla. pour service rendu lors du siège des Binicia. Normalement, ça lui assure un libre passage partout en Galéa.
La reine lui a donné ce bijou ?
J'exécuterai vos ordres, mère inquisitrice, mais il est quand même sous la protection de Cyrilla.
Galan se massa le front, trop épuisé pour réfléchir avec sa clarté d'esprit habituelle.
Dans ce cas, il faut le laisser filer. Mais dites-lui de partir sur le champ. Reparlez-lui des bandits et précisez qu'il finira pendu avec eux si vous le revoyez. Ordonnez-lui de s'éloigner rapidement d'ici.
Cynric la salua et partit. Galan prit le bras du capitaine et se dirigea avec lui vers les tentes chauffées.
« Cet après-midi, dit l'officier, le brouillard se lèvera. Il sera épais comme de la purée de pois ce soir. »
Galan, fronçant les sourcils, il s'expliqua.
« J'ai passé mon enfance dans ces montagnes, alors prévoir le temps m'est facile. »
« Ce brouillard nous avantagera, surtout avec ce que je prépare pour terroriser nos ennemis. »«
Allez-vous enfin me dire ce que vous entendez teindre en blanc ?»
Nous avons une longue liste d'objectifs à détruire. Ce soir, notre meilleure occasion se présentera à cause de l'effet de surprise. Après, les bouchers seront sur leur garde.
J'en ai conscience et mes hommes aussi. Ils ne vous décevront pas.
Notre but final, ne l'oublions pas, est de tuer tous nos adversaires. Ce soir, ils seront très vulnérables. Il faudra en profiter. Combien avons-nous de fantassins ?
Environ 2000. Plus 800 archers, le reste étant composé de piquiers, de lanciers et de cavaliers. Moins l'intendance, bien entendu.
Choisissez 1000 fantassins, les plus forts, les plus féroces et les plus avides de se battre.
Et que devront-ils faire ?
Les soldats déguisés avec les uniformes des sentinelles mortes iront explorer le camp et reviendront nous indiquer la position de nos objectifs. Pendant que leurs camarades s'occuperont du sabotage, les 1000 fantassins iront d'abord vérifier que les officiers sont empoisonnés, puis ils tueront autant de soldats que possible.
Et ils arrivèrent devant la dizaine de tentes disposées en cercle. Galan jeta un coup d'œil dans chacune pour s'assurer qu'on avait exécuté ses instructions, puis elle se campa devant la plus grande.
« À présent, dit Ryan, puis-je savoir ce que nous allons blanchir ? Nos 1000 fantassins. Pardon ? Vous voulez peindre les hommes ? Les Darrans redoutent les esprits, Bradley. En particulier ceux des ennemis qu'ils ont tués. C'est pour ça qu'ils ne laissent jamais leur mort sur le champ de bataille après une victoire. Ce soir, ils seront attaqués par des spectres, et ça les terrorisera. Ils verront que nous sommes des soldats aux uniformes blancs, pas des esprits. Les hommes ne porteront pas d'uniforme, capitaine. Ils n'auront que leurs épées peintes en blanc, comme leur corps. Juste avant l'attaque, ils se déshabilleront.
Quoi ?
Choisissez ces soldats et rassemblez-les ici. Ils entreront sous les tentes, se dévêtiront et se baigneront dans le blanc de chaux. Après, ils resteront près des pierres chaudes pour sécher, ce ne sera pas long. Une fois sec, ils pourront remettre leurs uniformes, jusqu'à l'assaut.
Nous sommes en hiver. Nus, ils crèveront de froid.
Le temps s'est un peu adouci. De plus, ce gelé les incitera à accomplir leur mission le plus vite possible. Pas question qu'ils traînent dans le camp, sinon les Darrans se ressaisiront. On frappe, on terrorise et on file. Les Darrans, croyant voir des esprits, auront le réflexe de fuir. Frapper un homme dans le dos est plus simple que lorsqu'il se défend. Je parie que certains seront même paralysés par l'effroi, et dans un premier temps, ceux qui éventeront la supercherie seront trop surpris pour réagir. Ces quelques secondes de confusion nous donneront l'avantage. À la guerre, la différence entre tuer et être tué est souvent une affaire de secondes. Capitaine, vos hommes ne devront pas engager de duel. En cas de résistance, ils fuiront et attaqueront de nouveaux ennemis. Les corps à transpercer ne manqueront pas, alors inutile de ferrailler pour la gloire. Je veux des morts, autant de morts que possible. Une fois réglé le sort des officiers, je me fiche de savoir qui tombera sous nos coups, mais que nos soldats ne risquent pas leur vie inutilement. Frapper et filer, ce sera leur devise.
Je n'aurais jamais cru dire un truc comme ça, fit Ryan. Mais votre tactique bizarre risque de réussir. Au début, les hommes n'aimeront pas ça, mais ils obéiront une fois que je leur aurai expliqué. Je n'ai jamais entendu parler d'une stratégie pareille. À mon avis, l'ennemi non plus.
Galan sourit, soulagé que l'officier en soit arrivé à cette conclusion.
Bradley, je suis ravi d'avoir à mes côtés dans l'armée des contrées du milieu un capitaine galéien aussi enthousiaste. À présent, je voudrais qu'on apporte ici toute ma sellerie et qu'on la trempe dans le blanc de chaux. Encore un détail. Veuillez poster des gardes devant cette tente pendant que je serai à l'intérieur.
Votre céleri ? Mère inquisitrice, vous ne pensez pas... Enfin, vous vous plaisantez.
Pas question d'imposer à mes hommes quelque chose que je ne ferai pas moi-même. Ils ont besoin qu'un chef leur montre la voie. Cette mission me revient.
Mère inquisitrice,
bafouilla Ryan.
Vous êtes une femme et plutôt... jolie.
Il la regarda des pieds à la tête, rouge comme une pivoine.
En fait, on pourrait même dire que vous... veuillez m'excuser.
Ce sont des soldats en guerre, Bradley. Développez votre pensée, je vous en prie.
Ils sont très jeunes, mère inquisitrice. Et on ne peut pas s'attendre à... Enfin, je veux dire... Eh bien, ils ne pourront pas contrôler certains réflexes. Et vous serez atrocement embarrassés.
Il fit une grimace éloquente, espérant ne pas devoir entrer davantage dans les détails. Callan lui sourit pour le décontracter un peu.
« Capitaine, connaissez-vous la légende des Chanari ?»
Le pauvre Bradley fit non de la tête.
« À l'époque où des tribus et des royaumes furent unis pour former Dara, la philosophie de la pacification ressemblait beaucoup à celle de l'ordre impérial, se soumettre ou disparaître. Les Chanari refusèrent les deux options. Ils se battaient si bien qu'ils devinrent la terreur des Darans, pourtant beaucoup plus nombreux. Les Chanari adoraient la guerre. Ignorant la peur, ils étaient tellement excités par l'idée de ferrailler qu'ils le faisaient tous nus et excités, justement.
Callan savoura un instant la stupéfaction de l'officier, puis elle continua.
Tous les Darans connaissent cette légende. Aujourd'hui encore, ils redoutent les Chanari.
Callan s'éclaircit la voix.
Si vos hommes réagissent comme vous le prévoyez, leurs ennemis seront encore plus terrorisés. Cela dit, je doute que ça arrive. Ils auront des préoccupations plus urgentes, comme par exemple sauver leur peau. Et si ça devait se produire, dites-leur que j'en serais ravi puisque ça augmentera la terreur de nos adversaires.
Pardonnez-moi, mère inquisitrice, mais je n'aime toujours pas ce plan. Il vous met en danger sans grande nécessité.
C'est faux, capitaine. Il y a deux raisons majeures pour que j'agisse ainsi. Primo, quand j'ai quitté le camp ennemi hier soir, une cinquantaine d'hommes se sont lancés à ma poursuite. Les Darans ne doivent pas douter que ces soldats finiront par me rattraper et me tuer.
50 hommes rôdent dans les environs à votre recherche ?
S'étrangla Ryan.
Non, ils sont tous morts. Mais leurs camarades ne le savent pas. Quand ils me verront blanche comme un fantôme, ils penseront que je viens venger ma propre mort, et ils auront encore plus peur.
50 soldats ?
Répéta Ryan ébahi.
Tous morts ?
Il se secoua.
Et la deuxième raison ?
Quand nos ennemis me verront nu sur un cheval, ça attirera leur attention, qu'ils me prennent pour un esprit ou non. Pendant ce temps, ils ne pourront pas frapper vos hommes, et ils seront vulnérables à leurs coups. Pour résumer, j'accepte volontiers tout outrage à ma pudeur si cela peut sauver un seul de nos gars.
J'ignorais que la mère inquisitrice se souciait tant de son peuple,
murmura Ryan.
Ai-je une chance de vous dissuader de commettre cette folie ?
Un seul homme au monde pourrait m'en empêcher, capitaine, et ce n'est pas vous.
L'inquisitrice autorisa un petit rire.
En fait, s'il était au courant, il me l'interdirait sûrement.
Qui est cet homme ? Votre partenaire ?
Callan secoua la tête.
Celui que vous allez choisir ?
Non. Celui que je vais épouser. Enfin, j'espère.
Elle sourit, amusée par le trouble du capitaine.
Il se nomme Richard, et c'est le sorcier.
Ryan s'empourpra de nouveau, mais la curiosité fut la plus grande.
Si je suis trop indiscret, n'hésitez pas à me rembarrer, mais je pensais que les inquisitrices utilisaient leur pouvoir afin de... Vous voyez ce que je veux dire ?
Un vrai mariage nous est en principe interdit, c'est exact. Mais Richard est très spécial. Il a le don et mon pouvoir ne peut rien contre lui.
J'en suis heureuse pour vous, mère inquisitrice.
Callan plissa le front.
Si vous le rencontrez un jour, n'allez surtout pas lui parler de cette histoire d'attaque et de fantômes. Sur ces sujets, il est plutôt vieux jeu. Dites-lui que vous m'avez laissé chevaucher seul, nu, au milieu de 1000 hommes, et il vous décapitera proprement.
Ryan se décomposa. Callan gloussa, ravi de son petit effet.
Capitaine, il me faut une épée.
Parce que vous voulez vous battre en plus de tout ?
Bradley, imaginez qu'un Daran veuille s'en prendre à ma vertu.
Sans lame, comment pourrais-je me défendre ?
Je vois ce que vous voulez dire. »
L'officier réfléchit quelques instants, puis son visage s'éclaira et il dégaina son épée, une vieille arme patinée par le temps.
« Le prince Harold me l'a remise le jour où j'ai été nommé capitaine. Elle appartenait à son père, le roi Wyborn, qui la brandit sur un champ de bataille. »
Il haussa les épaules.
« Bien sûr, les rois ont une multitude d'épées dont ils se servent un jour ou l'autre pour défendre leur trône, donc cette lame n'a aucune valeur particulière. Mais je serais honoré que vous l'acceptiez. Ça me semble normal puisque vous êtes la fille de Wyborn. Qui sait si une sorte de magie ne vous protégera pas ?»
Callan prit solennellement l'épée.
« Merci, Bradley. Je suis très touché. Et vous vous trompez ? Cette arme a une valeur inestimable. La porter sera un grand honneur, mais je ne la garderai pas. Ainsi, quand je partirai pour Aedindril, dans un jour ou deux, vous aurez aux côtés une lame brandie par un roi et par la mère inquisitrice. »
À cette idée, le capitaine rayonna.
« À présent, voulez-vous bien faire garder cette tente ? Puis choisir les fantassins.
À vos ordres, mère inquisitrice. »
Alors qu'elle entrait sous le pavillon, Callan entendit le jeune homme s'adresser à trois soldats, sévères comme s'il leur donnait un ordre d'une importance vitale.
Pendant que la mère inquisitrice prendra son bain, vous tournerez le dos à la tente et vous ne laisserez approcher personne. C'est compris ?
Oui, capitaine !
S'écrièrent à l'unisson les trois hommes. Callan ferma le rabat, retira son manteau et commença à se déshabiller dans l'atmosphère agréablement chaude. L'épée posée contre la cuve, elle dut faire un effort pour rester debout. Sa tête tournait comme une toupie. Elle tâta le blanc de chaud du bout de l'index. La température idéale, comme pour un bon bain. Mais ça n'en était pas un. Elle entra dans la cuve et se plongea dans l'épais liquide blanc. Une seconde, elle ferma les yeux et imagina qu'elle était en Aedindril, dans sa baignoire. Tendant une main, elle saisit l'épée et posa la garde entre ses seins, la lame appuyée sur son ventre. Ce n'était pas un bain, mais un acte de guerre qui visait à sauver des hommes et à en tuer d'autres. Comme toujours, elle porterait du blanc, mais ça ne serait pas une robe. Les chevilles croisées et les jambes écartées pour ne pas risquer de se blesser avec la lame, l'inquisitrice pinça le nez, ferma les yeux et s'immergea dans le blanc de chaux.